Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui combine avantageusement la rigueur de l'info et la souplesse de la gaudriole. Une émission moderne, tournée vers l'international à l'instar de Céline Kallmann, présentatrice bilingue du journal de 6h qui hier a adoré
les Grammy Awards.
Une aisance en anglais qui n'a d'égal que celle de Céline Dacosta et Eva Rock qui, chaque fois qu'elle tombe sur une phrase en anglais, se renvoie la balle pour ne pas se ridiculiser.
Peut-être que vous pourriez lire, Eva.
Ah, c'est le nom du site que vous voulez lire, en fait.
Voilà.
Bah non, mais c'est facile. Anti-bullying teach.
Anti-bullying.
Ouais, ouais.
Et ouais, c'est ça. Heureusement, hopefully, debout les copains, it's not only Céline et Eva, it's also Fabrice d'Almeida. Le monsieur histoire d'Europe 1 qui ce matin nous entraîne en Espagne alors que démarre aujourd'hui le procès des dirigeants indépendantistes catalans accusés d'avoir mené en 2017 une tentative de sécession. Fabrice revient aux origines de la volonté d'indépendance catalane.
Merci d'écouter Europe 1 ce mardi 12 février. Et très bon réveil, il est 6h. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce mardi 12 février. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
Plus 74% en un an, les actes antisémites ont fortement progressé en France. Hier soir, Christophe Castaner s'est rendu dans l'Essonne où des arbres plantés en hommage à Ilan Halimi ont été sciés. Un accident rarissime hier soir près de Paris, une collision entre deux tramways à Issy-les-Moulineaux, bilan 12 blessés dont un grave. C'est le grand soir pour le PSG qui affronte Manchester United, soirée spéciale Ligue des Champions à partir de 20h sur Europe 1.
Europe 1.
Des arbres sciés, des arbres qui avaient été plantés à la mémoire d'Ilan Halimi à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. Les services municipaux de la commune l'ont découvert, ont découvert la profanation hier matin à deux jours d'une cérémonie pour commémorer les 13 ans de la mort du jeune homme de 23 ans. En janvier 2006, il avait été enlevé, séquestré et torturé pendant trois semaines par ce que l'on avait appelé le gang des barbares. Torturé et tué parce qu'il était juif. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est rendu sur place hier soir où il a annoncé ce chiffre, une hausse de 74% des actes antisémites en France en 2018.
Dans deux jours, nous nous préparions ici à ce souvenir. Dans deux jours, nous voulions pousser à nouveau ce cri d'espérance pour que cela ne se reproduise pas. Et pourtant, la réalité est tout autre. Je pense à cet acte contre la République. Nous ne laisserons rien passer. J'avais besoin de dire au nom du gouvernement, au nom du président de la République, au nom de la France, que nous pleurons la mémoire d'Ilan Halimi.
Christophe Castaner hier soir à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. Une inscription antisémite visant Emmanuel Macron a aussi été découverte hier matin au siège du journal Le Monde. Des portraits de Simone Veil ont aussi été découverts souillés par une croix gammée. Sur Twitter, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a dénoncé une lâcheté intolérable. Le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, a de son côté appelé à se retrouver pour condamner et refuser la banalisation. Une cellule de crise ouverte hier soir après la collision entre deux tramways vers 21h à Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine, près de Paris. Bilan 12 blessés, dont un grave. Des bus ont été mis en place pour la portion concernée pour aujourd'hui. On ne connaît pas encore les raisons de cet accident rarissime.
Ce matin, on parle également de la refonte de la carte hospitalière avec notamment la suppression du numerus clausus à compter de la rentrée 2020.
Oui, c'est un des points forts de la loi santé qui va être présentée demain par Agnès Buzyn au Conseil des ministres avec un objectif, augmenter de 15 à 20% le nombre de médecins formés chaque année, mais aussi diversifier le recrutement des étudiants. Eve Roger.
Depuis quelques années, les facs de médecine le constatent, leurs élèves ont tous le même cursus standard, un bac scientifique mention bien ou très bien, et la plupart sont issus de catégories sociales supérieures. Alors pour diversifier les profils, la loi prévoit qu'un certain nombre d'étudiants, on parle de 30, même de 40%, puissent entrer directement en deuxième ou troisième année de médecine après une licence de leur choix, même éloigné des filières scientifiques, explique Jean Sibilia, le président des doyens des facs de médecine.
Il faut que les très bons lycéens puissent se dire « eh ben, je pourrais aussi faire de la philosophie, de la littérature ». Bien sûr, il faudra une connaissance scientifique. Il serait aberrant de dire que la médecine se fera que sur des bases littéraires, évidemment. Mais on aimerait une diversification de la culture de ces lycéens, pas exclusivement scientifique et technique.
Alors ça ne se fera pas d'un claquement de doigts. Plusieurs décrets doivent maintenant déterminer comment ces nouveaux étudiants seront sélectionnés. Idem pour le passage de la première à la deuxième année. On nous annonce la fin du fameux concours couperet à base de QCM. mais sans autre précision pour le moment.
Ève Roger pour Europe 1. L'Assemblée nationale a prévu la présence obligatoire dans les salles de classe du drapeau tricolore et du drapeau européen, ainsi que des paroles de l'hymne national, des mesures qui entrent dans le cadre de l'examen du projet de loi sur l'école de la confiance. Passer le permis à 17 ans ou durant le futur service national universel, un rapport parlementaire, présenté aujourd'hui propose des pistes, ces pistes-là pour réformer le permis de conduire. Un départ de plus, Ismaël Emelien quitte l'Elysée. Le conseiller spécial d'Emmanuel Macron a annoncé au magazine Le Point sa démission qui prendra effet au mois de mars. Il souhaite se consacrer à des projets personnels.
C'est un déclin auquel on ne fait pas franchement attention dans la vie de tous les jours, mais qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques, la disparition des insectes.
Oui, près de la moitié des espèces sont en train de disparaître. Un déclin sans précédent, c'est le résultat d'une synthèse de plus de 70 études. Les scientifiques mettent en garde contre ce qui pourrait être un effondrement des écosystèmes naturels lors d'Autriche.
Le déclin de la moitié des insectes est vertigineux. Leur taux d'extinction est 8 fois plus rapide que celui des mammifères. Les papillons, les abeilles, les guêpes, les scarabées, les coccinelles sont particulièrement en danger. Pourquoi ? Principalement à cause de l'urbanisation et de l'agriculture intensive avec les produits chimiques utilisés dans les champs. Une seule solution, changer radicalement la façon dont on produit les aliments et dont on apprivoise la nature, dit François Lasserre, entomologiste et vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement.
La diversité diminue, tout le monde s'en moque parce qu'on a l'impression que tous les insectes nous embêtent alors qu'ils sont minoritaires, ceux qui nous embêtent. Les espèces qui nous embêtent, c'est moins de 5% sur la Terre entière. Et en fait, toutes les autres espèces, elles nous aident même, c'est qu'elles pollinisent nos fruits, elles recyclent les végétaux qui tombent au sol. Et donc, sans elles, on aurait un environnement un petit peu dégradé.
La survie de l'humanité est même en jeu, affirment les auteurs de cette étude, car plus on détruit le capital naturel de la Terre, moins on a de chances de survivre sur la durée.
Lors d'Autriche pour Europe 1.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. Et ma chère Céline, même sans avoir des dons de divination, je peux vous prédire ce qui va vous arriver jeudi soir pour la Saint-Valentin. D'abord, je vais vous révéler une fois de plus, mais peut-être de manière plus frontale, mes sentiments. Vous aurez un instant d'hésitation, vous penserez à votre mari, à la morale calviniste suisse-allemande qui est la vôtre, puis vous finirez par me dire...
Je vous avoue que moi aussi...
Voilà. Parfait. Qu'est-ce que vous voulez manger ?
Bonbons de foie gras, risotto au coquillage, coulis de crustacés.
Ah oui, merde, bon, il faut que je m'y mette tout de suite, alors madame est exigeante. J'y vais.
Europe 1.
5h-7h, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire, alors que démarre aujourd'hui à Madrid le procès des dirigeants indépendantistes catalans accusés d'avoir mené en 2017 une tentative de sécession. Fabrice Dalmeida revient aux origines de la volonté d'indépendance catalane.
Il est 6h07. Il est 6h08, Mathieu Noël.
L'heure de faire un point sur le temps.
Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine.
Et le...
Rénoval vous présente la météo.
Et le temps, c'est... Mais non, j'ai s'abonné quand même. Ouais. Et le temps, Céline Dacosta, c'est vous. Encore quelques nuages pour la moitié nord aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Hein. Ils seront encore présents et surtout cet après-midi sur un gros quart nord-est. Ce matin, attention aux brumes et brouillards qui sont nombreux. Le soleil brillera, lui, largement sur la moitié sud. Ce sera le cas partout dès demain jusqu'à la fin de la semaine. Côté température, elles sont douces cet après-midi. Un petit peu plus fraîches sur la moitié nord, mais encore bien fraîches. Ce matin, on se couvre.
Merci Céline et Baroque.
C'est la Saint-Félix. Félix, joyeux en latin. Et vous, qu'est-ce qui vous rend heureux ? Eh bien, Michel,
vous.
Notre ami boulanger qui nous écoute tous les matins, nous dit la retraite. Figurez-vous qu'il prend sa retraite dans 15 jours après 32 ans de travail. Il avait commencé à travailler à l'âge de 14 ans. On vous embrasse
mérité,
et on pense à vous. Et Romarix nous dit un bon steak, un bon vin et mes potes, ça me rend heureux. Et on le comprend. On valide aussi cette recette. Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci Eva.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À l'heure d'ouvrir son journal des sports, loin de moi l'idée de mettre la pression à Jérôme Lacroix. Mais Jérôme, je vous rappelle que vous parlez sous le contrôle d'une immense athlète que l'histoire a injustement oubliée, alors que question performance, elle était vraiment au coude à coude avec Marie-Josée Pérec. Eva Roque vous écoute et je vous rappelle qu'à un moment de sa vie, Eva a fait beaucoup de sport, même si c'est vrai que bon, là ça fait longtemps qu'elle n'en a pas fait.
Depuis l'après-guerre,
oui.
Depuis 108
oui.
ans.
Oui, non, mais Jérôme, un peu de tact, passons au journal des sports.
Je vous raconterai un truc sur Marie-Josée Pérec.
Mais n'hésitez pas à nous le raconter quand vous voulez, je m'en resservirai. Mains et mains de fois.
Tu fais pas du tout ton âge.
À la une du journal des sports, Jérôme, la table des grands.
La Ligue des champions, la grande coupe d'Europe du foot de retour. Nous y sommes, les joutes hivernales, celles qui, depuis 2 ans, sonnent le glas des espoirs du PSG. 2 éliminations en 8e de finale. Barcelone, Madrid, alors cette année au menu c'est Manchester United, match aller ce soir à Old Trafford, somptueux bastion du foot européen. Il y a 2 mois, tirage au sort, Soulagement, souvenez-vous, parce que les mancuniens de l'entraîneur Mourinho ne vont pas bien. Aujourd'hui, avec le novice norvégien Solskjaer à sa place, c'est 10 victoires sur les 11 derniers matchs. Et à Paris, c'est moins joyeux. Deux blessés majeurs, Neymar et Edinson Cavani. Kylian Mbappé est donc le dernier rescapé de l'onéreux brelan d'as d'attaque. Pour assumer, Mbappé doit faire du Mbappé, conseille l'entraîneur allemand du PSG, Thomas Tuchel.
Il doit jouer libre, il doit jouer avec confiance et pour grandir. Et ça sont exactement les moments pour faire ça.
Alors pour pallier les absences de Neymar et Cavani, l'entraîneur dégaine le système D, Di Maria, Draxler, Dani Alves, en soutien d'Mbappé seul en pointe. L'Italien Verratti, de retour de blessure, est attendu titulaire.
Et à Manchester, le danger numéro 1 s'appelle Paul Pogba.
Et oui, 8 buts, 5 passes décisives sur les 10 derniers matchs, comme en témoigne James Cooper, journaliste anglais. Pogba est transfiguré depuis que l'entraîneur Mourinho, avec qui il ne s'entendait pas, est parti.
Maintenant, il a de la liberté. Et ça lui a redonné de la joie. On le voit avec son sourire, avec ses pas de danse. Il écoute Ole Gunnar Solskjaer et donc il fait ce qu'il lui dit. Ce n'était pas le cas sous Mourinho. Pogba est redevenu une pièce essentielle du club.
Des propos recueillis par Julien Froment. Manchester United PSG, 8e de finale aller de Ligue des Champions à Old Trafford. Plus de 70 000 supporters anglais, 3600 parisiens et soirée spéciale sur Europe 1. 20h, 23h15 avec le match en direct et en intégralité.
Le ski, Jérôme, et l'éloge de la patience.
Enfin, un titre de champion du monde pour Alexis Pinturo. Le Savoyard, 27 ans, décroche le combiné. Médaille d'or hier aux Mondiaux suédois sur cette épreuve de la polyvalence. Une descente plus un slalom.
C'est toujours un moment dans une carrière, un moment spécial, un moment, je dirais, d'accomplissement. Pour moi, c'était un objectif et maintenant, celui-là, il est fait. J'ai eu cette première médaille et maintenant, je ne sais pas si ça va me libérer, mais ce qui est sûr, c'est que celle-là, je l'ai déjà au moins autour du cou.
Des propos recueillis par Romain Libardi, Pinturo, l'un des plus beaux palmarès du ski français. Hein. Une médaille d'or mondiale, 3 médailles olympiques et 21 victoires en Coupe du Monde.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Pas de porno au rugby. Le club de Carcassonne, 2e division, mais oui, envisagé d'être sponsorisé le
par
temps d'un match.
Michel.
Par un célèbre site pornographique avec deux prénoms. Engagement, endurance, puissance et vigueur, des qualités partagées par les deux univers selon le site. Non, a dit la Ligue, pas compatible avec le règlement et surtout avec le public familial qui se déplace au stade.
C'était le journal des sports et un peu plus de Jérôme Lacroix. Et tout de suite, on accueille Jérôme, quelqu'un que vous aimez beaucoup, avec qui d'ailleurs vous avez passé une soirée récemment.
Oui, mais contrairement aux rumeurs que vous colportez, j'étais habillé.
Oui, mais ça ne nous regarde pas, c'est entre vous et Fabrice Almeida. Hein, voici la rubrique Histoire.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Almeida.
Bonjour, bonjour à tous.
C'est aujourd'hui que s'ouvre le procès de 12 dirigeants catalans en Espagne pour leur rôle dans la tentative de sécession en octobre 2017. Mais d'où vient ce mouvement identitaire catalan ?
Il y a un point de départ pour le patriotisme catalan. C'est le poème de l'écrivain Bonaventure Arribao, publié en 1833, une ode à la patrie. Ce texte romantique chante avec nostalgie le pays catalan, ses chaînes, ses montagnes, ses vallées, si bien qu'il sert de point de départ à tout un mouvement intellectuel, la Renaissance, qui défend la spécificité des Catalans dans la grande nation espagnole. Ce mouvement sort de l'oubli l'histoire de la Catalogne médiévale, un peu comme en France, Michelet puis Lavis ont réhabilité les grandes figures du Moyen-Âge. Ces écrivains déplorent la fin des institutions locales en 1716 à cause de l'absolutisme royal. Ils fondent Barcelone, qui s'industrialise plus vite que le reste de l'Espagne à partir de 1870, un phare. Le catalanisme serait le fer de lance de la nation ibérique.
Et c'est le franquisme qui va interrompre ce lien privilégié entre Catalogne et Espagne.
Bah oui, avec la République en 1931, puis le Front Populaire en 1936, les Catalans ont obtenu une reconnaissance de leur autonomie et la recréation de la généralité leur assemblée. Mais Franco supprime tout cela avec la dictature en 1939. Il détruit les mouvements catalans. Ces derniers adoptent dans la clandestinité une nouvelle logique anti-madrilène et contre la centralisation.
Est-ce que le retour à la démocratie a permis ensuite l'essor d'un nouveau nationalisme catalan ?
Clairement. À partir de 1976, c'est un nouveau nationalisme qui réapparaît. Il se veut libéral, contre Madrid qui serait autoritaire. Il réclame sa langue, ses institutions et critique le cadre institutionnel. Et après l'échec de la tentative d'autodétermination, de la proclamation de l'indépendance de 2017, il se vit comme victime de l'arbitraire madrilène. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui, au fond, illustre combien le catalanisme maintenant est en contradiction avec la nation espagnole.
Merci beaucoup Fabrice Delmeda, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, peu avant 6h15.
Europe 1. Mais il est 6h15 justement, Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'actu et d'invités qui la font à 6h20, alors que la concertation publique sur le futur terminal géant, le terminal 4 de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle démarre aujourd'hui. Nous serons en studio avec le directeur de l'immobilier du groupe ADP pour évoquer ce chantier énorme. Quand, comment, qu'est-ce que ça va changer pour vous? On en parle, mais d'abord, Nothing Breaks Like a Heart, Mark Ronson et Miley Cyrus sur Europe 1.
5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures de douce allégresse pour tout savoir de l'actu du jour et même de l'actu de demain.
Oui, comme dans Retour vers le futur.
Un peu, Eva, oui. Car c'est aujourd'hui que démarre la concertation publique autour du nouveau terminal géant prévu à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, le terminal 4. À quoi ressemblera-t-il? Quand les travaux vont-ils démarrer? Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Usager du ciel, on posera la question à Serge Gibovski, directeur de l'immobilier chez Aéroport de Paris.
Mais il est 6h20, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Les actes antisémites commis en France ont progressé de 74% en un an, annonce hier soir de Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu dans l'Essonne où des arbres en mémoire d'Ilan Halimi ont été sciés à quelques jours des 13 ans de sa mort. Plusieurs inscriptions antisémites ont aussi été découvertes à Paris sur des portraits de Simone Veil. L'employé de la société de transport de fonds Loomis et les plus de 3 millions d'euros qu'il transportait restaient introuvables hier soir. Le conducteur a-t-il pris la fuite avec l'argent? A-t-il été braqué? Aucune hypothèse n'est écartée pour l'instant. Enfin, soirée spéciale Ligue des Champions à partir de 20h sur Europe 1. Manchester United reçoit le PSG. Coup d'envoi 20h45.
Europe 1,
5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce mardi 12 février et l'actualité, c'est aussi le lancement aujourd'hui de la concertation publique au sujet du futur terminal de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, le T4, un terminal géant qui doit permettre d'accueillir 450 vols supplémentaires par jour. Bonjour Serge Gribovski.
Bonjour Mathieu Noël.
Vous êtes le directeur de l'immobilier à Aéroport de Paris. Tout d'abord, à quoi va ressembler ce nouveau terminal XXL? Il paraît que c'est comme si on construisait l'aéroport d'Orly à l'intérieur de l'aéroport de Roissy, en termes de taille. C'est exact?
La référence à Orly est juste en termes de nombre de passagers que ce nouveau terminal permettra d'accueillir. Mais en même temps, ce sera radicalement différent.
J'espère que ce sera plus joli qu'Orly.
Ce sera radicalement différent. Ah, Orly a son charme architectural.
Oui, il a son charme désuet, voilà. Oui.
Exactement. Mais il est dans une filmographie très célèbre dans beaucoup d'endroits. En revanche, pour revenir sur le terminal 4, c'est un terminal qui sera extrêmement moderne et qui ne ressemblera à rien de connu aujourd'hui.
Ah, ça c'est intéressant, c'est une question que j'avais plus loin, c'est-à-dire que vous n'êtes pas inspiré d'un aéroport, je ne sais pas, disons à Hong Kong, à Dubaï, enfin, il y a des aéroports qui sont des références, est-ce que vous êtes inspiré d'un aéroport ou non, ça sera révolutionnaire?
Nous souhaitons faire mieux et nous souhaitons surtout travailler en étroite liaison avec un grand nombre de start-up pour permettre de définir quelque chose qu'on appelle le smart aéroport ou smart airport, très connecté, très lisible, très convivial pour... d'une certaine façon, une expérience passager, une expérience client unique.
Mais attendez, il ne va pas y avoir justement une énorme différence entre ce terminal 4 complètement ultra-moderne, high-tech, et le terminal 2 de Roissy qui sera à côté. Enfin, il n'y aura pas un choc des mondes entre les deux?
Il y aura sans doute un choc des mondes. Oui.
On aura envie d'aller au terminal 4. Quoi. On verra sur son billet qu'on est au terminal 4, on dira chouette. Ce terminal 2, on se dira mince.
Ce sera un terminal très attirant. Nous avons connu le terminal 1, le terminal 2, le terminal 3 et le terminal 4.
Ce sera le nouveau terminal sexy de Roissy-Charles-de-Gaulle. Est-ce que cet agrandissement est nécessaire?
Il est tout à fait nécessaire car il est en fait en accompagnement développement du trafic aérien, dont vous savez qu'il est prévu qu'il double d'ici 2037. Et pour pouvoir répondre à ce doublement et en même temps garder l'attractivité de Paris, région capitale, il nous faut développer des structures d'accueil, tant pour les passagers que pour les entreprises, tant pour les touristes que pour les voyageurs d'affaires. C'est une ardente nécessité.
Mais je crois savoir de ce projet qu'il n'y a pas de piste supplémentaire. Comment c'est possible? Parce que s'il y a beaucoup plus de trafic, il va y avoir beaucoup plus d'embouteillages sur le tarmac.
Parce que le système aérien de Charles de Gaulle est unique en France. Il est un doublé de pistes qui, lui, n'est pas saturé. Ce qui est saturé, c'est la capacité d'accueil. Ce qui n'est pas saturé, c'est la circulation aérienne et la circulation sur les pistes. Il y a de l'espace pour cela.
Alors, la concertation publique démarre donc aujourd'hui. Elle va durer 3 mois. L'objectif, c'est de recueillir l'opinion de la population sur 480 communes aux alentours de Roissy. Comment ça va se passer concrètement? Est-ce que ça peut encore bloquer? Est-ce que le projet peut ne pas se faire? Ou bien là, il est parti, quoi qu'il arrive? On concerte, mais on sait où on va?
Ce qui est d'abord important de souligner, c'est que le groupe ADP accepte ou se soumet volontairement à une concertation qui n'était pas obligatoire.
D'accord.
Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que
c'est le précédent Notre-Dame-des-Landes qui vous a
Non, c'est la conviction qu'un aéroport ne peut pas se faire contre son environnement et contre son territoire, mais plutôt en alliance avec son environnement et son territoire. Et c'est extrêmement important. Donc, comment ça va se passer ? Eh bien, il va y avoir une série de 10 réunions publiques, de 4 ateliers spécifiques avec l'appui des administrations publiques concernées, qui va se dérouler d'aujourd'hui à dans 3 mois, à l'issue de laquelle les 4 garants qui ont été désignés par la Commission nationale du débat public remettront leur rapport.
Vous avez dit le mot environnement. Oui. 450 vols en plus par jour, ça fait forcément plus de pollution, plus de bruit aussi. Est-ce que l'impact sur l'environnement ne va pas être...
Alors nous avons dans ce dossier évidemment tenu compte des nuisances sonores et analysé les choses. Ce que je peux dire, c'est que en 2014, nous calculons un indice de bruit. Cet indice de bruit était en 2014 au niveau de 75. Eh bien, en 2037, au moment du plein fonctionnement du terminal 4,
vous n'allez pas nous dire qu'il y aura moins de bruit.
Il y en aura autant ou pas plus.
Malgré les 450 vols supplémentaires.
Oui, absolument.
Mais là, vous misez dans vos calculs, j'imagine, sur le fait que les moteurs d'avion seront plus performants et feront moins de bruit.
On a raison de miser sur le progrès technique. Je pense que en matière de transport, l'histoire a prouvé que, effectivement, à un moment donné, on était passé de la locomotive à vapeur à des trains électriques.
Pour finir, on donne la date.
Oui.
2037, c'est pas demain. Ça va faire. Est-ce qu'il y aura une première phase, une préouverture que
ça... Il y aura plusieurs phases, en effet. En 2024, on commencera à livrer les premières airs avions pour permettre aux avions de se parquer à proximité. En 2028, les premiers nouveaux bâtiments seront livrés. Et ensuite, de façon échelonnée, de 2028 à 2037, les choses iront crescendo pour avoir le terminal totalement achevé en 2037. Mais dès 2024, on en verra les premières conséquences, en rappelant que ce sont des conséquences aussi positives, car nous parlons du terminal 4, mais le terminal 4, c'est aussi un accompagnement en matière de desserte routière, en matière de desserte ferroviaire. Ça n'est pas que le bâtiment, c'est un ensemble de projets.
Merci beaucoup, Serge Ibovski, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'immobilier à Aéroport de Paris.
Europe 1. Il est 6h26, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient et le soleil aussi. En revanche, sortez le damar, ça pique un peu.
Il est 6h28, Mathieu Noël.
Juste avant le journal de 6h30, on fait un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Une journée calme et de plus en plus ensoleillée.
Oui, on se dirige d'ailleurs vers une semaine très lumineuse puisque le soleil sera de la partie jusqu'à dimanche. Là, on aura l'arrivée d'une perturbation qui arrivera par la Bretagne, mais en attendant, on va profiter du soleil. Aujourd'hui, c'est la journée où on aura encore le plus de nuages. Des brumes, des brouillards assez nombreux ce matin. C'est dégagé déjà sur les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, la région PACA et la région Rhône-Alpes. La région PACA, on aura encore un petit peu de vent. Et les températures, 0 à 10 degrés, c'est la moyenne du nord au sud. Encore quelques températures négatives dans le nord-est.
Merci Céline. À suivre, arrêtez tout ce que vous faites. Prenez une grande inspiration dans une minute. Le journal de David Doucan.
Voilà.
Vous connaissez Debout les copains, vous connaissez notre slogan, tout savoir de l'actu sans jamais oublier d'en rire. Sauf que voilà, il y a des jours où on n'a pas envie de rire. Car si on a beaucoup parlé dans l'actu de l'arrivée possible en France de la peste porcine, pas un mot, pas une ligne sur une autre contagion qui menace et qui, elle, est visiblement transmissible à l'homme directement depuis le cochon, la peste zygomatique. Tout va très vite, l'individu sain, en l'occurrence ici un spécimen de présentatrice météo franco-portugaise, avale une tranche de chorizo et dans les secondes qui suivent, c'est le drame. Fini le rire distingué de la femme du monde, bonjour le rire de cochonne. Oui, triste destin pour celle qui était quand même, je le rappelle, la voix de la pub Acadomia, Céline Dacosta. Tâchons d'oublier tout ça avec le journal.
C'est moi qui enchaîne, merci. Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin David.
Un poison, c'est ainsi que le ministre de l'Intérieur qualifie l'antisémitisme après un week-end marqué par de nombreuses inscriptions anti-juives dans Paris. Un arbre en mémoire d'Ilan Halimi a été scié. Christophe Castaner annonce 74% d'actes antisémites en plus en 2018 par rapport à l'année précédente. Un nouveau départ en Macronie. Le conseiller politique d'Emmanuel Macron, Ismaël Emelien, proche parmi les proches, a annoncé qu'il quitterait l'Elysée à la fin du mois de mars. Et enfin, cette fois, nous y sommes. Le Paris Saint-Germain affronte ce soir Manchester United en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Europe 1.
L'antisémitisme se répand comme un poison. comme un fiel. Déclaration de Christophe Castaner hier soir à Sainte-Geneviève-des-Bois. Le ministre de l'Intérieur constatait la profanation d'un lieu de mémoire, celui d'Ilan Halimi, torturé et assassiné en 2006 par Youssouf Fofana et le gang des barbares, parce qu'il était juif. Un arbre planté en sa mémoire a été scié. Écoutez la réaction du maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, Frédéric Petitat.
Du dégoût, ma première réaction est du dégoût, et puis sentiment de colère aussi, puisque voilà, nous avions planté ces arbres en la mémoire d'Ilan, et ces actes antisémites viennent attaquer une nouvelle fois Ilan et sa mémoire. J'appelle l'ensemble de la communauté nationale à venir nous rejoindre mercredi matin à 10h, à l'endroit même où on a découvert le corps d'Ilan. Je crois que c'est extrêmement important que l'ensemble de la communauté nationale puisse participer à cet hommage, d'autant plus dans le contexte effroyable que nous connaissons aujourd'hui. Chaque acte antisémite est une attaque forte à la République.
Mercredi matin, donc demain, ce sera l'anniversaire des 13 ans de l'assassinat d'Ilan Halimi. C'est à cela que le maire vient de faire référence. Cette profanation intervient dans un contexte, une résurgence de la parole antisémite depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Ce week-end particulièrement avec ce mot « Juden » inscrit sur la vitrine d'un restaurant Bagelstein. « Juden », cela signifie « juif » en allemand. Des croix gammées ont aussi souillé dans la capitale des portraits de Simone Veil. Une inscription antisémite visant le chef de l'État a également été découverte sur le siège du journal Le Monde, et plus globalement, Christophe Castaner a annoncé ce chiffre. Les actes antisémites ont bondi en 2018, 74% de plus par rapport à 2017. C'est un fidèle de la première heure qui quitte Emmanuel Macron. Son conseiller politique, l'homme de l'ombre Ismaël Emelien, a annoncé qu'il partirait de l'Élysée à la fin du mois de mars. Il justifie sa démission par la nécessité de promouvoir un livre qu'il va publier sur le progressisme. Il nie que son départ ait un lien avec l'affaire Benalla, dans laquelle il est pourtant directement impliqué. Quelles étaient d'ailleurs exactement les relations d'Alexandre Benalla avec les oligarques russes? Le site d'investigation Mediapart révèle les coulisses des contrats passés par l'ancien chargé de mission de l'Élysée, montant total plus de 2 millions d'euros et dont le plus récent date de décembre dernier. Explication, Chloé Triomphe.
Selon Mediapart, cela monte à 3 le nombre de contrats passés par Alexandre Benalla avec des oligarques russes en quête d'une protection pour eux-mêmes ou leur famille lors de leur séjour en France. Des contrats passés pour le premier alors qu'il était encore en poste à l'Élysée et pour le plus récent dont le site d'information révèle l'existence, négocié fin 2018 alors qu'Alexandre Benalla faisait le tour du monde avec ses passeports diplomatiques. Ce que l'on apprend également, c'est le montant de ces contrats, près de 2 millions d'euros pour les deux derniers, ainsi que le circuit de l'argent viré en partie par une société monégasque sur un compte d'Alexandre Benalla au Maroc. Enfin, ce que détaille Mediapart, c'est la galaxie d'anciens policiers ou militaires au casting de ces sociétés de protection. Quant aux oligarques russes dont il est question, ce ne sont pas des inconnus de la justice, puisque leurs noms apparaissent déjà dans des enquêtes en Espagne. En France, l'un d'eux avait fait l'objet de signalements qui n'avaient pas abouti, faute d'éléments. Mais ce qui intrigue la justice française dans ce dossier, c'est de savoir pourquoi ces hommes d'affaires russes que l'on dit proches de la mafia ont choisi précisément les sociétés d'Alexandre Benalla et si ces contrats ont ou non fait l'objet de contreparties.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
À suivre dans ce journal, la recherche avance, une découverte prometteuse dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer, de nouveaux traitements plus efficaces à l'horizon. À tout de suite.
Il est 6h36, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan, les chercheurs progressent dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer.
Oui, des Français du CNRS et des Américains de l'université de Cornell publient une étude dans la revue Nature Neurosciences. Leur recherche montre que le débit sanguin dans notre cerveau joue un rôle dans le développement de la maladie et cela pourrait aboutir à de meilleures stratégies de traitement. Les explications de Mélanie Gomez.
Ce que viennent de montrer ces chercheurs, c'est que chez des souris, dès le début de la maladie d'Alzheimer, il y a une baisse du débit sanguin au niveau cérébral. En clair, le sang circule moins vite dans leur cerveau et ça, on sait que c'est pareil chez l'homme. En tout cas, à un stade avancé de la maladie, le débit est réduit d'environ 30%. Et cette diminution du flux sanguin, cette équipe vient donc d'en découvrir la cause. Les globules blancs présents dans le sang se mettent à boucher de tout petits vaisseaux sanguins, des vaisseaux 10 fois plus petits que des cheveux. Et c'est par hasard, en essayant de mieux les observer, ces vaisseaux bouchés, en donnant une molécule fluorescente à ces souris, explique Sylvie Lortois du CNRS, qu'un potentiel traitement d'Alzheimer est apparu.
On s'est rendu compte que ça débouchait les vaisseaux sanguins, ça réaugmentait le débit sanguin cérébral
et ça a amélioré les performances cognitives des animaux. Elles avaient une amélioration de leur mémoire spatiale, elles se retrouvaient plus facilement dans un labyrinthe par exemple, et elles avaient aussi une amélioration de l'intérêt, de l'humeur.
Alors maintenant, reste à prouver que cela fonctionne aussi chez l'homme. Pour cela, il va falloir développer un médicament capable de déboucher ces vaisseaux, car la molécule fluo utilisée chez la souris pourrait être toxique, un développement qui pourrait prendre une quinzaine d'années.
Mélanie Gomez, la spécialiste santé d'Europe 1. C'est le grand rendez-vous pour le Paris Saint-Germain ce soir, huitième de finale.
Et pour vous, David.
Et pour moi aussi, bien sûr, parce que c'est le huitième de finale aller de la Ligue des Champions en Angleterre face à Manchester United. Les Parisiens sont affaiblis par les blessures de Neymar et de Cavani. En face, à l'inverse, les Mancuniens sont en pleine forme.
Ne trouvez pas d'excuses. D'avance.
Avec à Manchester un Français particulièrement performant, le champion du monde Paul Pogba, qui est redevenu l'homme fort là-bas. Sur place, Julien Froment.
Comme de nombreux joueurs de sa génération, pour bien jouer, Paul Pogba a besoin d'être aimé. Ce n'était pas le cas avec son ancien entraîneur, le portugais José Mourinho. Mais le 19 décembre, exit Mourinho, place au Norvégien Ole Gunnar Solskjær, qui applique, lui, la méthode de la calinothérapie. Et ça fonctionne. Pogba redevient un joueur de classe mondiale. James Cooper est journaliste à Sky Sports.
Maintenant, il a de la liberté et ça lui a redonné de la joie. On le voit avec son sourire, avec ses pas de danse. Il écoute Ole Gunnar Solskjær et donc il fait ce qu'il lui dit. Ce n'était pas le cas sous Mourinho. Pogba est redevenu une pièce essentielle du club.
Sur ces deux derniers mois, Paul Pogba est le joueur le plus décisif d'Europe. C'est même le meilleur buteur de Manchester United. Une régularité qui n'a pas échappé à l'entraîneur parisien Thomas Tuchel.
Mais c'est pas une surprise que Paul Pogba est un joueur clé pour Man United. Il est toujours capable de faire la différence. On peut voir que maintenant il est un leader, vraiment un leader. C'est impressionnant.
Contre un Paris Saint-Germain certes amoindri, Paul Pogba veut prouver ce soir devant son public que son énième résurrection n'est pas un feu de paille. Manchester, Julien Froment, Europe 1.
Voilà, et le match est bien sûr à suivre sur notre antenne sur Europe 1, soirée spéciale. À partir de 20h et retransmission du match en intégralité, mon cher Mathieu.
Bien évidemment, David, je n'en attendais pas moins de nous. Voilà. Merci, c'était le journal de David Doucan, journaliste qui, quitte à se démener pour être au top, aimerait que les autres autour de lui se démènent aussi un minimum afin que son immense talent ne reste pas dans l'ombre à cause de l'amateurisme de ceux qui sont censés le mettre en valeur. En l'occurrence, moi, hier par exemple, Doucan m'a trouvé un peu mou sur son teasing. Ah
ouais. Dans une minute, le journal de David Doucan.
Tu pourrais le dire avec davantage d'entrain. Tu pourrais vendre ça un peu plus, quoi. Dans une minute, le moment fort de votre matinale. Dans une minute, enfin quelque chose d'un petit peu...
Haut de gamme.
Oh, que votre Altesse me pardonne, demain pour annoncer son attache, je ferai sonner le cor de chasse.
Bah oui,
mais non, Eva, mangez-moi ça.
Bon, c'est moi qui joue.
Pardonnez, Eva. On passe à la météo, mais c'est l'heure de faire un point.
Faites votre boulot, quoi.
Mais je fais mon boulot. Et aujourd'hui, c'était bien.
Oui, aujourd'hui, c'était pas mal.
C'était dynamique.
Mais vous pouvez faire mieux quand
c'était
même.
C'était punchy. Demain, je ferai encore plus
merci
fort.
Merci à vous.
Je prendrai un mégaphone. On passe au temps.
Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine. Rénoval vous présente la météo.
La météo, c'est Céline Dacosta ici. Et quel est le temps aujourd'hui? Il fait beau.
Oui, très beau aujourd'hui. Il va faire de plus en plus beau. Aujourd'hui, on a encore un petit peu de nuages, surtout sur la moitié nord, qui seront encore très présents cet après-midi sur un gros quart nord-est. Attention ce matin aux brumes, aux brouillards qui sont assez nombreux. Le soleil brillera largement sur la moitié sud et ce sera le cas partout dès demain et jusqu'à la fin de la semaine. Un temps anticyclonique qui s'installe. Enfin, un peu de soleil, de lumière pour tout le monde, pour ceux qui sont en vacances et pour les autres comme nous qui travaillons. Ça va faire du bien à tout le monde.
Merci Céline.
Europe 1. 6h41, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 le plus moderne de la bande FM et le plus interactif aussi. Grâce à notre téléopératrice Céline Dacosta. Rappelons la procédure, Céline.
Et si vous souhaitez réagir, appelez-nous hein, sur notre téléphone.
Oui, ou envoyez-nous un pneumatique. À suivre. Politique, économie, médias, les trois fantastiques affûtent leurs arguments au programme aujourd'hui. Un documentaire épatant sur France 2. Comment Jean-Yves Le Drian et Emmanuel Macron gèrent en toute discrétion le retour des djihadistes et le grand gaspillage des dates de péremption.
Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
L'antisémitisme se répand comme un poison, comme un fiel. Déclaration de Christophe Castaner hier soir à Sainte-Geneviève-des-Bois après la profanation d'un lieu de mémoire, celui d'Ilan Halimi, assassiné en 2006 parce que juif. Le ministre de l'Intérieur a aussi annoncé que les actes antisémites ont augmenté de 74% en 2018 par rapport à l'année précédente. Quelles étaient exactement les relations d'Alexandre Benalla avec les oligarques russes? Le site d'investigation Mediapart révèle les coulisses des contrats passés par l'ancien chargé de mission de l'Elysée, montant total plus de 2 millions d'euros. Le plus récent date de décembre dernier. Enfin, du football, le choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ce soir, le Paris Saint-Germain se déplace en Angleterre pour affronter Manchester United, sans Neymar et Cavani qui sont blessés.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
C'est un spectacle à la fois émouvant et saisissant.
Trois cerveaux qui se mettent en branle. Parfois dans la douleur.
Ou là.
Parfois très lentement.
J'ai découvert Nakamura. La nouvelle scène, quoi.
Mais sûrement. Voici les trois fantastiques. Eva Rock pour les médias. Axel de Tarlé pour l'économie. Mickaël Darmon pour la politique. On commence par vous, Mickaël. Nouvelle question. Nouvelle question extrêmement sensible. Eva, c'est de pouffer à régler pour l'État français. Comment éviter la dispersion des djihadistes français alors que le califat de l'État islamique vit ses dernières heures, Mickaël?
Et oui, c'est le lot d'un président de la République. Hein, vous savez, passer d'une réunion sur la politique fiscale avant de se pencher l'heure d'après sur le sort des djihadistes en déroute militaire. Alors il faut savoir que c'est le dossier qui va être au cœur des préoccupations des gouvernements occidentaux. Hein. Deux informations pour bien comprendre donc, les enjeux du retour des djihadistes. Emmanuel Macron préfère en voir revenir le moins possible, d'où la coopération entre les forces spéciales pour les éliminer avant qu'ils ne soient faits donc prisonniers. Ensuite, même si on préfère rester très discret à ce sujet au sommet de l'État, on a bien compris que le retrait américain en Syrie de Syrie prendra plus de temps que prévu et avec une situation très mouvante sur le terrain puisque les ultimes offensives dans les dernières poches du califat pourraient d'ailleurs augmenter le nombre de djihadistes à récupérer et à surveiller.
Mais justement, par quels moyens? On a évoqué ces derniers jours des ponts aériens. Est-ce que c'est une option toujours valable?
Alors selon plusieurs sources liées à ce dossier, la France et les Occidentaux sont pris en tenaille entre deux éléments. Les Américains qui à terme vont quitter la zone, et les Kurdes qui, après avoir fait un énorme travail pour combattre les djihadistes, mais vont quand même se préoccuper de préserver leur territoire. Bref, ils disent aux Français et aux autres, on veut bien que les survivants de l'État islamique soient rassemblés un temps chez nous, mais enfin, chacun récupère ses djihadistes. Hein. C'est le principe donc donné par les Kurdes. C'est là que le mode de transport intervient avec des questions d'orgueil national. On a parlé d'avions américains, mais c'est une option parmi d'autres. On évoque aussi des avions français qui pourraient se poser sur le sol kurde. Le président de la République donc fait étudier plusieurs scénarios. La semaine dernière, Jean-Yves Le Drian s'est rendu aux USA pour des consultations discrètes avec son homologue sur le sujet. Toute la question, c'est l'arrivée en France. Des centres pénitentiaires sont prêts. L'obsession de l'État français est d'éviter la dispersion de ces djihadistes afin qu'ils ne passent pas à nouveau à l'action.
Merci Mickaël Darmon pour cet éclairage. Axel de Tarlé, vous nous avez rejoint et vous nous dites un petit peu comme la marionnette de Giroud à la grande époque, faut pas gâcher. Le grand gâchis alimentaire à cause des dates de péremption, on disait un mot hier. Un Français sur deux se dit perdu avec les étiquettes.
Voilà, je vous ai apporté du riz cuisiné que j'ai trouvé dans mon garde-manger. Vous voyez, en deux minutes.
Monsieur est trop bon.
À la méditerranéenne, en deux minutes au micro-ondes. Sauf que si vous regardez derrière les étiquettes, il y a écrit « à consommer de préférence avant le 15 décembre 2018. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On jette?
Oh, 2000.
Eh ben non, on ne jette pas parce qu'il y a écrit
ça dépend
des
produits.
De préférence. À consommer de préférence. Ouais. Et ce qui est différent de à consommer jusqu'où? Quand vous avez à consommer jusqu'où, ce sont des denrées périssables, enfin des denrées plus comestibles pour le coup. Alors qu'à consommer de préférence avant le, ça veut dire que la qualité, la couleur sera peut-être un petit peu différente si vous dépassez la date de péremption. Le résultat. Et encore, c'est plus compliqué parce que je vous la fais courte, mais le yaourt à consommer jusqu'au 21 juin, en fait, vous pouvez le consommer encore 3 semaines
trois
après
semaines
le 21 juin.
Ah, j'aurais dit une semaine.
Plus personne n'y comprend rien. Il y a 53% des Français qui disent qu'ils sont perdus avec ces recommandations. Ce qui fait que ces dates de péremption sont à l'origine de 20% du gaspillage alimentaire dans les foyers. Et donc, il y a une application internet qui s'appelle Too Good To Go, qui a publié hier un livre blanc qui a été remis au gouvernement et qui recommande d'ajouter après la mention, vous voyez, à consommer de préférence avant par exemple le 18 décembre 2018, d'ajouter derrière, mais aussi après. Vous pouvez aussi le consommer après. Et hasard de la vie, et hasard de ma vie, et c'est là où les grands esprits se rencontrent, hier soir, je vais au trophée de l'innovation d'Europe 1. Et qui gagne le trophée Europe 1 pour l'innovation alimentaire?
Non,
Too Good To Go.
C'est pas vrai.
C'est cette application Too Good To Go.
Mais on est vraiment à la pointe sur Europe 1.
Mais je vais parler de vous demain, Too Good To Go.
Bon.
Et c'était vraiment bien cette soirée. Non, précisément parce qu'on a découvert des tas d'applications que je ne soupçonnais pas. Par exemple, cette application Too Good To Go contre le gaspillage alimentaire. L'idée, c'est que par exemple, elle vous indique que tel commerçant doit se débarrasser de tel, par exemple une boulangerie qui doit se débarrasser de sandwich parce que c'est la fin de la journée qu'elle va les jeter. Mmh. Et donc, vous pouvez les racheter moitié prix. C'est un hôtel, par exemple, qui doit jeter ses croissants parce qu'il est 11h et qu'il sait qu'il n'y aura plus de petit déjeuner. Vous pouvez les récupérer.
Alors,
moitié prix.
Continuez votre liste, mais je mets un tapis musical plus adapté à la situation. Voilà. Continuez de parler des trophées de l'avenir, un événement
non,
par Axel de Tarlé.
Non, mais c'était vraiment bien.
Ah, c'était génial.
Oui. Alors, bon, du coup, vous cassez mon effet, là.
Non, allez-y.
l'application WeGoTo, c'était le trophée de la mobilité, c'était pour indiquer aux personnes les itinéraires en ville pour les personnes à mobilité réduite. Mais il y avait aussi des grandes boîtes comme Michelin qui a gagné le trophée de l'environnement parce qu'il a inventé
un pneu.
Oui, et pas à base de caoutchouc qui pollue les océans, mais à base de produits de déchets recyclables. Et alors le clou du spectacle, là vous allez rigoler, ça va vous plaire, c'était le trophée des collectivités locales remis aux pompiers de l'Indre. Et vous savez par qui ?
François Hollande.
Par François Hollande, la exactement, classe. Qu'on a vu débouler. Et alors les trophées.
Un ancien arrivé. Président ne déboule pas, Axel. Il entre majestueusement.
Ça fait chic, quoi, vous voyez. Parce que le prix d'avant, c'était Pierre de Villeneuve. Le prix suivant, François Hollande.
C'est aussi Pierre de Villeneuve.
Ça,
c'est on embrasse Pierre de Villeneuve, évidemment.
Si tu nous écoutes, Pierre de Villeneuve.
Je termine parce que François Hollande a été excellent. Donc les pompiers disaient que leurs vêtements, ils étaient isolants. Enfin, il fallait les jeter. Or, c'est des vêtements qui résistent au feu. Donc ça faisait de très bons isolants. Et les pompiers de l'Indre ont dit oui, mais c'est bien qu'on parle de nous parce qu'on est dans l'Indre, une région un peu oubliée, un peu isolée. Et là, François Hollande a dit l'Indre, le département des isolants, mais pas isolé.
Bon, tout le monde a rigolé. C'était la blague de François Hollande relayée par Axel de Tarlé.
Mais c'était très bien cette soirée de trophées.
Mais c'est toujours très bien les trophées de l'année. Eva Rock.
Sinon j'ai du riz à la Méditerranée.
Oui, voilà. Merci Eva.
Je vais essayer de faire passer une excellente, une excellente soirée encore ce soir. Vous emmènerez votre riz, Axel. On pourra regarder la télé, la France de l'entre-deux-guerres sur France 2 à 21h. C'était il y a un siècle. La Première Guerre mondiale s'est achevée et s'ouvrait une ère nouvelle, deux décennies de l'entre-deux-guerres que ce documentaire de Romain Icard retrace à travers des archives colorisées et retravaillées sur un plan sonore. Le travail est absolument minutieux, exigeant et remarquable, et ça reflète au mieux l'état de la France à cette époque-là. Il a fallu donc reconstruire, et puis deux décennies pour la naissance d'un nouveau monde, un monde moderne avec des femmes qui s'émancipent, coupe à la garçonne, cigarette aux lèvres, une société des loisirs apparaît, marquée par le jazz, quelques pas de danse, et puis autre excentricité symbolisée notamment par Joséphine Baker. Dans des salles combles, elle entame un charleston provoquant, alors les uns applaudissent, et puis les autres critiquent.
Et aussitôt, les critiques pleuvent sur Joséphine Baker et la revue Nègre, la plupart dithyrambiques. D'autres dénoncent pêle-mêle cette danse d'une rare inconvenance, le triomphe de la lubricité, ou encore cette lamentable exhibition qui nous ramène aux singes beaucoup plus vite qu'on en est descendu. Mais ces critiques jugent-ils l'artiste qui se produit sur scène, ou la société française et ses nouvelles mœurs considérée décadente par une frange de conservateurs.
Un flot d'archives issues des fonds régionaux et nationaux avec les commentaires de Denis Podalydès. Et ça donne une autre vision de cette double décennie. C'est un film réalisé sous l'œil vigilant de l'historien Pascal Horry. Et c'est un traité quasi sociologique d'une période qui est déterminante dans l'histoire de la France. C'est à voir sur France 2 à 21h. C'est en deux épisodes, 2 fois 52 minutes.
Merci beaucoup, Eva Rock. Merci à tous. Les trois fantastiques. Je vous dis à demain.
Il est 6h52, Mathieu Noël.
Debout les copains s'apprêtent à s'éclipser discrètement, modestement, sur la pointe des pieds.
Dance.
Afin de ne pas voler la vedette à la matinale de Nico Saliagas qui arrive, il faudra hélas, comme chaque matin pour Nico, s'en passer par le débrief de son émission de la veille. Et aujourd'hui, entre un lapsus freudien de notre encoreman, la boîte magique d'Anis Mbida et l'anniversaire low cost de David Abiker, comme dirait Nico,
c'est bon ça.
A tout de suite.
Il est 6h55, Mathieu Noël.
Debout les copains s'achève, mais haut les cœurs mes agneaux, car vous le savez, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nico Saliagas. Et ce matin, entre le lapsus freudien de Nico, qui rendrait presque érotique la prolifération nucléaire, les digressions bricolage de Laurent Cabrol et l'anniversaire surprise de David Abiker, qui a vu de nez à coûter un peu moins cher que la fête de Carlos Ghosn à Versailles, c'est plus un débrief, c'est la Ligue des champions du n'importe quoi. Et on commence par le tenant du titre, le Mbappé de l'anticyclone, Laurent Cabrol, qui hier abordait déjà la rencontre avec une évidente démotivation, manque en tout cas de concentration, notamment au moment du sacro-saint proverbe du jour de Nikos, proverbe à l'issue duquel il est convenu que Lolo fasse au moins semblant d'en avoir quelque chose à faire.
Bonjour Laurent Cabrol,
bonjour,
c'est
Nikos.
La Sainte Héloïse aujourd'hui.
Ah bon ?
Une lassitude qui devait se confirmer quelques instants plus tard avec donc cette digression bricolage, déjà incongrue en soi, au beau milieu d'un point météo, mais qui plus est conclue d'une bien étrange manière. Chose assez rare en radio, Lolo n'a effectivement pas jugé bon de terminer sa phrase avec un mot existant, ou en tout cas audible.
Si vous avez quelque chose à faire, attendez un petit peu aux travaux de maçonnerie, parce qu'il ne va pas pleuvoir pendant 5-6 jours. Et donc vous pouvez y aller, attaquer les voitures.
Attaquer quoi ? L'humidité ? Quiconque a compris peut se manifester en 39-21. À Approximation buccale toujours. Hier, on fête également le troisième lapsus sexuel de Nikos depuis le début de la saison. Un lapsus qui tombait vraiment à pic en plein lancement sur le risque de prolifération nucléaire. Mais il faut croire que ces terrifiantes bombes, ces énormes ogives, ces colossales cylindres ont inspiré secrètement autre chose à notre insatiable Nikos.
Et c'est une chanson qui dénonce justement la prolifération des armes. Fellation.
Lapsus rieur et potage.
Terrible.
Idéal pour lancer ce qui est indéniablement l'événement people de la journée. L'anniversaire complètement ouf, complètement no limit niveau budget de David Abiker, le monsieur revue de presse d'Europe 1. Nikos avait dit « Je veux que ça claque du rêve, peu importe le prix, whatever the price ». Et effectivement, ça a claqué grave. Et surtout, alors que David, qui entre dans la cinquantaine, nous confiait sa hantise de la vieillesse, Nikos, enfin psychologue, a su trouver les mots pour le rassurer.
La revue de presse de David Abiker, qui aujourd'hui fête ses 50 ans.
Waouh.
Joyeux anniversaire.
Vous vous sentez comment, cher ami?
Ben, ça fait bizarre, quoi. Mais enfin, bon, je vais vous parler des vieux dans la revue de presse, c'est vous dire.
Mais vous n'êtes pas ça. Ben oui, vous commencez à peine.
Vous n'êtes pas vieux, vous commencez à peine. Ça, c'est vraiment des mots qui sont allés droit au cœur de David Abiker, qu'on embrasse.
Merci, Mathieu Noël. Ben oui. Qui a 50 ans autour de cette table?
Pas moi.
Pas encore, ça vient.
Ah bah moi, il y a longtemps que je les ai eus. Hein.
Moi j'arrive, c'est dans 3 mois.
Ah, allez, on sera là.
Merci, j'espère que j'aurai une fête égale à celle de David.
Quelque chose de beau, ouais.
Merci Mathieu Noël, merci Eva Rock.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.